CPU, carré et petit utile.
Dans cette release de CPU, un conte de chevalerie, des Gibson à graver sur chrome, des agents fédéraux à blaguer et un Whooper sauce nucléaire. L'équipe aujourd'hui, Myriam Chave, Chris O'Brien et Dascritch, notre invité, est Rodolphe Village des Cinémas Utopia, et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux. Enfin, portable, à l'époque, c'était des Radiocom 2000. Allez, c'est parti.
CPU, carré et petit utile.
Et nous enregistrons ce soir depuis l'Étincelle Coworking. On les remercie beaucoup. L'Étincelle Coworking, c'est juste à côté de l'UGC, pas très loin du Gaumont et donc forcément pas très loin de l'Utopia. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Et en tout cas, je remercie beaucoup en tout cas, le public de s'être présenté quasi nombreux. Ok.
Merci.
Bonjour à toi, public, mon amour. Bonjour Myriam, vas-tu bien ?
Très bien, et toi ?
Bah, ce sera mieux que si tu te rapproches de la sucette.
Très bien.
D'accord. Bonjour Rodolphe, tu ne sais pas dans quelle galère tu t'es embarqué, toi.
Je commence à m'en rendre compte.
Et pour finir les présentations, bonjour à toi, enfant du futur immédiat. Toi qui attends le nouveau film Disney de Noël, où tel Chris O'Brien est actuellement dans un cinéma pour aller donc voir le Star Wars nouveau, plus exactement le Gaumont. Enfin bon, un Star Wars réalisé par un fan de Star Trek, moi je te dis qu'on va avoir du côté obscur de Jar Jar Binks derrière. Chaque année, les chaînes de télévision accrochent à leur programme leurs plus beaux films de contes de fées. Elias, il y a un film de conte de fées qu'on adore dans cette émission qui n'est jamais diffusé à la télévision, ou alors à ce moment-là, alors que le long métrage a 20 ans, et qu'on le retrouve en général l'été en fin fond de programmation des chaînes AB Productions et tout le reste, enfin pour vous dire. Quel dommage de ne pas parler de ce film avec Angelina Jolie,
oui,
la Lara Croft, et Johnny Lee Miller,
oui,
le même que Trainspotting. Où Dave, un vaillant chevalier, tente de convaincre Kate, une jolie princesse, de la pureté de son amour, en allant jouter pour prouver sa bravoure. Bon, en fait, la fable est très moderne. Le chevalier défié par la princesse a jouté, préfigurant réponse d'une bonne génération, et la princesse menace le chevalier de lui faire porter une robe. Sauf que les deux personnages vivent dans un monde moderne où les joutes consistent non pas à se défier au tir à l'arc ou à désarçonner à la lance, mais à pirater de très gros ordinateurs. Et que Dave et Kate se connaissent sous les pseudos de Zero Cool et Acid Burn. C'est à qui piratera le plus vite une chaîne de télé du câble pour mettre son film favori, pendant que le DSI de TV5 Monde envoie son CV ailleurs. Hackers est un film de Ian Soffley sorti il y a exactement 20 ans. Vous auriez donc deviné que ce film n'est pas franchement un conte de fées, même si le film se termine bien puisque les acteurs se marièrent après le tournage. Bon, ça a duré qu'une année, hein. Ils se séparèrent, Angelina a eu plein d'enfants adoptifs et Johnny Lee Miller interprétera un geek notoire dans la série Elementary. Prochaine saison bientôt diffusée sur M6. Hackers raconte l'histoire de nerds boutonneux, adolescents à l'âge et au modem ingrat, qui plutôt que de se défier à la borne Wipeout, on voit dans le film d'ailleurs le prototype du jeu PlayStation, qui tournait à l'époque sur Silicon Graphics,
une ligne de deux quoi,
préfèrent sortir leur gros processeur G4 pour aller pirater les fichiers de la compta du multinational,
ouais comme ça, et juste pour rire.
Ah oui, j'ai oublié. Ils sont peut-être au lycée, mais ils ont quand même l'âge légal, puisqu'on est à New York, pour boire et pour aller en boîte. Ils ont néanmoins le bon goût d'écouter les meilleures playlists nocturnes de radio éphémère des années 90, car ce film fut l'une des premières grosses productions à mettre en avant la musique techno et tout ce qui est électro-body music et trance et tout le reste. Alors, enfant du futur immédiat, si tu ne le sais pas, et ma douce étante me l'a fait remarquer, les Québécois ont à leur habitude francisé le titre du film en chapeau noir. Alors, pourquoi ce nom ? Car, je reprends le terme anglais, Black Hat précise plus exactement le genre de hacker dont sont les personnages titres du film. Des pirates qui font ça pour la gaudriole et l'argent plutôt que pour le bien commun. ou plus exactement par anarchie, plutôt que pour consolider l'usage civil et le bien-être de tous. Le terme « hacker » date des années 50 et désignait un bidouilleur rigolard du MIT, le même qui était capable de rentrer dans les entrailles de l'ordinateur à lampe pour en faire une guirlande de Noël géante, coûteuse, mais toujours fonctionnelle. Des hackers sur grand écran, avant ce film, nous eûmes August Gorman dans Superman 3. Et oui, c'est lui qui tourne les demi-sens des feuilles de compta. Devin Lightman, qui voulait jouer dans War Games, ça on y vient tout à l'heure, et le Big Lebowski dans Tron. Je ne sais pas lequel des deux était le plus sexy. Enfin, à quelle époque il était le plus sexy. Peut-être quand il était chauve après, en tant que méchant, ben, je ne sais pas.
Après, méchant, c'est toujours plus sexy.
Après, les choses changent. Un hacker soviétique veut sa revanche dans le James Bond GoldenEye. Le Die Hard 4 a pour vilain des cyberterroristes qui remixent des discours de Nixon. Ouais, ça fait vachement plus, c'est plus flippant des présidents. L'informatisation galopante de notre époque moderne fit qu'on ne pouvait plus faire avaler aux spectateurs des couleuvres comme dans Track sur Internet où une adresse IP commençait en 748-345. Et je ne parle pas de la méthode d'éradication des aliens dans Independence Day qui reste la plus risible de toutes, leur injecter un virus informatique par Wi-Fi à partir d'un bon vieux Mac SE. Même dans Matrix 2, on voit Trinity utiliser l'utilitaire en ligne NMAP pour faire planter une centrale électrique. Pour info, le créateur du utilitaire, Gordon Lyon, n'était pas au courant de cette scène et l'a découvert au cinéma. On ne peut rêver de plus bel hommage. Avoir son engin logiciel tripoté par une aussi jolie femme dans une tenue moulante et très sexy. Non, s'il te plaît, pose ce maillet. Sur le petit écran, dans les années 80, nous avions la gentillette série Les Petits Génies, ou Whiz Kids, en VO. De nos jours, nous en sommes à de vrais protagonistes de polar, comme dans Person of Interest, qui revient d'ailleurs le 5 janvier sur TF1, et Mr. Robot, qui n'est toujours pas distribué. Je me demande comment ici on peut le voir, d'ailleurs. En fond du futur immédiat, le film Hackers est peut-être kitsch. Il a sûrement très mal vieilli. Il ne met peut-être un méchant coup de vieux quand je repense à la bande-son, mais il fait entrer le geek, le nerd, le taré de service qui ne fait pas de sport et préfère se complaire dans les livres de physique quantique comme un véritable héros de cinéma, et en plus comme un lanceur d'alerte. Peu importe les scènes de hacking en pseudo-3D, c'était même pas de la 3D d'ailleurs, ou le méchant CSO qui fait du skate, ben ouais, parce qu'il y avait le manifeste hacker et la bande-son extrêmement cool. Quel est le con qui s'est amusé à sa, avec le système de diffusion Sony, là, par Telnet, nuitamment, hein, on n'est pas une petite chaîne du câble, merci. Donc, c'était Carl Cox, Future 2000, et c'est extrait de la bande originale. Comme le reste des tracks, enfin, je l'ai reconstitué, la bande originale, c'est récupéré depuis, en fait, la tracklist qui est assez complète à Wikipédia, puisque c'est un film qui a eu trois bandes originales et bandes originales inspirées. C'était plus cool. Vous écoutez Radio FMR, CCPU, Carré Petit Utile, et de suite, Chris.
Je comprends que pour The Screech, le film Hackers a marqué un moment très important. C'était le moment quand les hackers sont devenus cool et pas juste nerds. Mais pour moi, c'était le film War Games qui a eu le même impact. Sorti en juin 1983, à l'aube d'une nouvelle ère. Ce même été, j'ai passé une semaine dans un camp de l'ordinateur. Rappelez-vous, ce fut l'été avant que Steve Jobs nous a présenté le premier Macintosh. À cette époque, un ordinateur était une machine mystérieuse avec un écran vert. J'ai appris à déplacer un seul pixel sur cet écran. J'aimais les défis, mais le futur semblait loin et très limité. Comme vous pouvez le devenir, je n'étais pas un garçon très populaire à 15 ans. La plupart de mes amis trouvaient bizarre qu'une personne perde son temps à essayer de comprendre un ordinateur inutilisable. Arrive War Games, avec Matthew Broderick, dans le rôle de David Lightman, avant de devenir Ferris Bueller, et Ali Sheedy, dans le rôle de sa copine, Jennifer Mack. Elle jouera plus tard dans St. Elmo's Fire. David est une étudiante à lycée, intelligente, mais sans motivation, sauf devant son ordinateur. Avec un ordinateur qui affiche seulement du texte, un verre de l'écran, comme celui que j'avais, David se brise en un ordinateur militaire nommé WOPR, War Operation Plan Response, O. En anglais, Whopper. Whopper contrôle toutes les bombes nucléaires de la nation. Et oui, les dirigeants de l'armée américaine ont mis l'avenir de l'humanité dans la main de quelque chose avec un homme qui semble comme un hamburger de Burger King. Whopper utilise également le nom de Joshua. Il est Joshua qui pose une question simple à David. Allons-nous jouer en jeu? Shall we play a game? Le jeu? Guerre thermonucléaire globale.
Shall we play a game?
Oh. I think I missed him.
Yeah, weird, isn't it? Yeah. Love to. How about global thermonuclear war?
Wouldn't you prefer a good game of chess?
Sauf qu'il n'est pas vraiment un jeu. C'est réel. David découvre ses justes temps pour empêcher la Troisième Guerre mondiale. Effrayante, à l'époque certainement, mais pour un adolescent, pour un nerd, aussi excitant. Imaginez, tant de pouvoir exercé par un adolescent solitaire, juste parce qu'il a compris les ordinateurs. Un ordinateur qui a ouvert la porte à un monde nouveau, qui lui est relié à grande aventure, tout à sa chambre. À ce moment, il semblait que l'avenir serait détenu par les nerds et pour les pirates. Et maintenant que nous vivons dans le futur dominé par Google et Apple, où les nerds sont cool, bien, Wargames certainement attendra la cible.
Merci énormément Chris qui a préenregistré cette chronique et qui s'est mis à nu comme tout le monde. Hein. Je ne sais pas, ça doit être l'ambiance générale aujourd'hui, non ? Non ? Ouais, il fait froid dehors. C'est fumigène. Myriam. Non, mais c'est le signe. Bah, ta chronique.
Chronique. Quand Xavier m'a parlé du thème de cette émission, que j'avoue avoir dû voir spécialement pour aujourd'hui.
Ah, Merci de ton implication, je remercie toute l'équipe.
Non, je ne vais pas mentir.
D'accord.
Je me suis imaginé un film qui serait un mix de Dumb and Dumber pour l'humour, de Matrix et Terminator pour le sujet et l'esthétique. Et à la réflexion, je me dis que je n'étais pas si loin, même si ce film a tout d'une comédie romantique sans l'humour. Découvrir Angelina Jolie à 20 ans ne m'a pas autant amusée que d'avoir la surprise de retrouver mon détective préféré, Johnny Lee Miller. Johnny ! Avec une couleur de cheveux blonds peroxydés à faire pâlir Cyndi Lauper ou Madonna. Mais revenons à l'esthétique. Qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête du directeur des effets visuels pour partir en live à ce point sur les volutes de code et les arabesques d'algorithmes ? Malgré la participation de Sicula, directeur de la photo de Pulp Fiction quand même, hein, je retiens de ce film plutôt des mix d'images façon spirographe, c'est un truc qu'ils adorent mes enfants, et des couleurs fêtes foraines, genre guimauve, pomme d'amour et barbe à papa. J'avais imaginé un film subversif, à l'esprit punk, où le contre-pouvoir prendrait une forme singulière. Hors du cyberpunk, ne subsiste que le cyber, enfin version jeune geek américain en mal de sensations fortes. Je me dis que ce film aurait dû être le premier de Neil Blomkamp, avant District 9, il aurait peut-être ainsi troqué les gentils hackers contre des aliens cyber méchants. Et là, ça aurait été vachement plus drôle. Pourtant, ce film, il a semble-t-il popularisé le hacker. Enfin, apparemment, il l'a rendu acceptable et même sympathique pour l'Américain moyen en l'élevant au rang de sauveur de l'humanité. Cet idéal prophétique semble se concrétiser avec les Anonymous qui promettent de nous venger d'Isis. Une réalité dont le film est bien loin. Comme cette scène, façon United Colors of Benetton, où tous les hackers du monde entier s'unissent pour lutter contre le méchant. Enfin, dommage d'ailleurs que Razor and Blade ne soit pas plus inspiré du Kitano, ce délirant Kitano et de son show télé déjanté. Finalement, je crois qu'en 1995, j'ai raté le coche. Moi qui pourtant me baladais à cette époque en kawaii irisé et en oneille argenté, je me serais parfaitement intégrée au dress code du film. À l'époque... Oui, c'est vrai. Hein.
J'imagine.
J'assume. À l'époque, je traînais mes guêtres plutôt du côté des graffeurs et des bombes de couleurs que celles des fondus de jeux et de programmation. Bien qu'aujourd'hui, je ne comprends toujours... Si bien qu'aujourd'hui, je ne comprends toujours pas, et oui, Xavier, je ne comprends toujours pas ton adoration pour ce film. C'est un échec. Je finirai donc cette chronique...
J'ai pas dit que je l'adorais.
Ah bon, voilà.
J'ai dit que c'était 20 ans d'un film séminal avec... avec
et voilà, maintenant, avec, il se défile.
Avec c'est vraiment... Où c'est un film vraiment choral. Comment non, ça qu'est-ce qu'il y a une facette God? J'ai dit séminal et choral. Et c'était un pari avec Ultimatum. D'accord, ok, merci.
Tu pourrais te justifier après.
Voilà, d'accord.
En parlant d'ordinateur, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un super placement de produit pour Apple, ce film. Hein. Il y a du Macintosh à tout va. D'ailleurs, j'avais réfléchi à une citation vachement intelligente du film, du bouquin de Paul Graham, là, Hackers and Painters, puis finalement, je n'ai pas eu le temps de vous la trouver. Donc, j'en ai une autre qui est vachement chouette aussi, du formidable Lewis Trondheim.
Encore un Américain. Lewis, if you hear me.
Yeah. Ce sera en français, hein, par contre. Mais la fierté d'avoir été les premiers Homo Electronicus ne nous sera jamais enlevée. Pionniers nous fûmes et pionniers nous resterons. Nous avons su où se dessinait l'avenir. Une humanité où tous les hommes regardent enfin dans la même direction, celle de leur écran d'ordinateur. À méditer.
la compile Nature et Découverte. Quel est le con ou la conne qui m'a griffonné ça sur ma playlist là ?
Quand je disais que t'assumes pas, mais c'est vraiment... C'est pas possible.
Vous écoutez Radio FMR, c'est l'émission CPU Carré Petit Utile, et si mes calculs sont exacts, c'est-à-dire qu'ils ne le sont absolument pas vu notre système de diffusion, il est actuellement 11h30 et 40 secondes, sauf si vous écoutez en fait en podcast, en différé ou en ski nautique. Et c'est extrait de l'album Orbital 2 de l'artiste Orbital, Halcyon plus On plus On. Ouais, ça va être un petit peu compliqué. On rappelle donc que c'est un CPU un petit peu spécial où on parle, je vais dire, d'un film qui a 20 ans. Et en fait, si j'en parle, hein, pour crever l'abcès, c'est tout simplement à cause d'un excellent article dans le Christian Monitor qui revenait sur ce film et avec plein de gens qui l'ont vécu, qui ont participé au tournage. Mais si, c'était le truc que je vous ai envoyé par email. Vous lisez jamais mes emails.
Pardon.
D'accord. Et... aussi pour parler du hacker au cinéma, il nous fallait un rat de cinéma qui soit lui-même un petit peu bidouilleur et pas uniquement amateur des films de Jean Rollin pour les films d'auteurs autorisants, donc forcément déshabillés puisqu'ils sont français. Ainsi, il a imaginé différemment le rapport entre films projetés et spectateurs en salle. Notre intervenant a mis en place le projet Cinéma de Poche, qui consiste à dupliquer sur clé USB dans un format libre et sans DRM un catalogue cinématographique, parfois en cours d'exploitation.
Vidéo en poche, s'il te plaît.
Vidéo en poche. Oh punaise. Ok, je ferai un guide commit après. Nous le recevons aujourd'hui car même s'il travaille pour une chaîne de multiplex dédiée au cinéma indépendant, il lui arrive de regarder en cachette des séries mainstream américaines, voire même de mettre perruque et postiche pour aller chez ses concurrents mainstream mater, hein, dans un plaisir coupable, les dernières super productions à méga budget.
CPU carré petit utile.
Notre invité est Rodolphe Village, gérant de Utopia Lab, maquettiste de la Gazette de l'Utopia Édition Toulouse, projectionniste bidouilleur de VLC et amateur du comics transmétropolitain. Rodolphe, oh là là,
oui.
Non, mais on lui donne pas les questions à l'avance, arrêtez quoi.
J'essayais de raccrocher les wagons par rapport à l'intervenant précédent, qui parlait de Wargames et de John Badham et qui avait oublié de citer que c'était aussi le réalisateur de La Fièvre du samedi soir. Ce qui me paraissait un élément assez important.
Ah ouais, ça explique beaucoup de choses. Ouais. Le hacker au cinéma, c'est une imagerie, je vais dire, à la fois stéréotypée, mais aussi en fait en quelque sorte un thème récurrent. Mais de quoi on peut le rapprocher le plus ? C'est le côté magicien médiéval fantastique ou bien la référence au rabbin qui écrit le mot vie sur le front du golem ?
Alors. De manière plus contemporaine, je le situerais aussi avec la naissance du teen movie dans l'industrie du cinéma américain. Mm-hmm. Et peut-être on pourrait faire remonter ça à American Graffiti de George Lucas en 73.
Tiens, encore un truc de geek.
Voilà, qui, avec le personnage de Richard Dreyfuss, quelque part, était un peu le prototype du nerd qui fait la rupture avec le personnage du conducteur de voiture qui ressemblait un peu à James Dean et qui en fait est le grand perdant à la fin, et c'est le nerd qui va aller à la capitale et réussir sa vie et raconter l'histoire. Donc c'est George Lucas, comme par hasard, fut le créateur de Star Wars, inutile de le rappeler aujourd'hui, le 16 décembre.
Puisqu'on enregistre voilà, le 16 décembre. Pardon. Et que tu es peut-être un maître de l'image, mais pour ce qui est du son, il va falloir que tu décales le pied de micro pour que tu parles en face, sinon ça ne va pas faire du tout.
J'aime bien parler à mes interlocuteurs en les regardant, donc c'était un peu difficile à configurer.
Ouais, forcément. Cinématographiquement, quand un hacker travaille, on va dire qu'il travaille.
Richard Dreyfuss, qui quand même, je continue.
Il me fait une thèse.
Non, mais pendant que en vous écoutant parler, j'ai fait des petites recherches sur Wikipédia. Et...
Ah, mais ouais, attends, ouais. T'es un vrai. Mais c'est de la SF, quoi. Ouais. Chercher dans un téléphone.
Wow. Richard Dreyfuss, qui après a joué quand même dans Rencontre du Troisième Type, réalisé par un certain Steven Spielberg, qui allait être aussi un de ceux qui allait promouvoir le teen movie. Dans Wargame, l'actrice dont vous parliez, qui s'appelait Ali Sheedy, a joué également dans The Breakfast Club, qui est un peu le démarrage du teen movie aux États-Unis, qui date de 85. Donc on peut y faire en parallèle. John Hughes, qui a fait peu de temps après Une créature de rêve et La folle journée de Ferris Bueller. Donc là, on retombe sur nos pattes avec Une créature de rêve, qui est vraiment un film de proto-hacker un peu nerd. Qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là, Weird Science.
Non. Ah non, pas, non, du, pas tout. Du tout. Ah.
J'étais pas née, moi.
Et dans Hackers, vous avez pas cité Matthew Lillard, ou alors j'ai pas entendu.
Non, non, effectivement, on a pas fait tout le cast.
Qui l'année suivante a joué dans Scream, où quelque part Wes Craven faisait du hacking sur le slasher movies. Et là, on retombe sur nos pattes, parce que le slasher movies se rapproche beaucoup des teen movies. Vu que c'était un peu
c'est le même public, ouais.
Voilà, c'était le même public. Ouais.
Cinématographiquement, donc, quand un hacker travaille, c'est beaucoup moins spectaculaire. En général, le type, il réfléchit pendant un temps avant de lancer une commande au bout de 10 secondes. C'est à peu près aussi spectaculaire qu'une démonstration d'aïkido par Steven Seagal. En général, le cinéma triche, mais est-ce que justement c'est pas une contrainte pour les réalisateurs et est-ce que justement c'est pas il n'y a pas eu de la créativité à partir de là pour mettre en scène le hacker?
Alors précise ta question.
Bah oui, justement, c'est sur les questions de mise en scène. C'est est-ce que justement par rapport à un acte du quotidien, c'est-à-dire développé sur un ordinateur et tout ça, est-ce qu'il y a de la créativité au-delà de la tricherie, ce que les trucs en 3D et tout le reste? Non, t'y arrives pas.
Non, je comprends pas le sens de ta question.
Non, mais toi, oui. Enfin, quand tu vois, quand tu vois les mecs qui vont non-stop, etc. Des fois, c'est absolument agaçant. Mais est-ce que des fois, il y a des idées de mise en scène qui te semblent vraiment intéressantes, justement,
pour rendre le hacking?
Ouais.
Ok. Ça y est.
Punaise.
Bah, pas trop jusqu'à présent, justement. C'est à part peut-être dans la série Mister Robot, effectivement, où ça. On commence à voir le hacking. Enfin, visuellement, ça commence à devenir intéressant. Quoi. Mais jusqu'à présent, il n'y a eu que des effets de surimpression de texte sur l'image qui ont eu leur sommet avec Sherlock Holmes, peut-être. Mais...
Oui, tout voilà, à fait. Ouais. Enfin, la série Sherlock de la BBC, voilà, où effectivement, les télégrammes sont remplacés par les SMS et voilà. On les voit à côté des personnages. Ouais.
Après, dans Mister Robot, je trouve que le hacking graphiquement fonctionnait bien dans la mise en scène. Quoi. Voilà,
On en a parlé tout à l'heure, donc ouais. Il y a le cri de guerre hein, dans le film Hackers, hacker la planète. Il y a aussi un peu une allusion à ce qu'allaient être les Anonymous, puisque il y a du tagage et tout ça, et un effet de masse qui est montré. Moi, je me souviens quand même de Jacques Gouamard quand il était venu ici à Toulouse, une interview sur la télé locale, et là, c'est disparu, qui à l'époque était directeur littéraire science-fiction. Il avait dit « Le cyberpunk, c'est un polar avec des boulons ». Mais ce qui est intéressant dans le terme polar, c'est qu'il y a une réflexion sociale, il y a une revendication sociale. Est-ce que justement le hacker amène une revendication sociale au cinéma, n'est pas une manière d'amener ça?
Il y a beaucoup trop peu d'exemples du personnage de hacker dans le cinéma pour tirer des généralités comme ça, je trouve. Enfin, à part le film...
Et dont bam vous...
C'est vrai qu'on le voit plus comme étant un mercenaire, en général, comme étant le bad guy.
C'est plutôt un représentant d'une espèce d'adolescence anarchiste qu'autre chose. Enfin, je schématise à mort, mais dans les quelques exemples qu'on a pu voir, c'est ça. Voilà. Bah, Mister Robot est sans doute le premier exemple, mais c'est une série télé. Où il y a une conscience politique dans le.
Alors,
vraiment intéressante dans le propos. Quoi.
Mister Robot n'est toujours pas distribué légalement en France. Heureusement que tu fais les allers-retours régulièrement aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous faire un résumé? C'est une série qui est terminée, si je me trompe.
La première saison est terminée.
Voilà. Donc, nous expliquer un petit peu.
En 2015, je crois.
Nous le résumer un petit peu, justement, et en quoi elle est intéressante.
Eh bien, le personnage principal est vraiment le prototype du Anonymous qui cherche à travers le hacking à donner un bras armé à ses revendications politiques. Donc,
pour faire rapide, quoi.
Voilà. Mmh. Alors après, je vais pas raconter la série parce qu'on va me traiter de spoiler et tout ça. Donc, mais c'est plus compliqué que ça. Après,
mais sur la mise en scène, en quoi elle est justement, elle est intéressante.
Ben pour une fois, on voit un terminal.
Est-ce qu'on voit des filles qui
qui hackent? Ouais. Oui, il y en a aussi. C'est assez actuel, donc c'est pas.
Assez actuel. Waouh.
Oui, non, ça c'était pas le mot peut-être. Mais...
Il y a une thématique que l'on voit qui est rentrée brutalement dans l'actualité depuis 2 ans, la surveillance globale, qui est arrivée avec qui au départ était un thème de film de hacker, mais qui était considéré comme étant un peu exagéré.
Pas que de hacker, hein, c'est d'une tradition américaine, la surveillance. Donc ça vient aussi du Washington Post et du Watergate avec les hommes du président. Il y a eu le film de Coppola, Conversation secrète, qui parlait de la surveillance et qui était un prémisse à tout ce qu'on a pu voir après, en fin de compte. Donc,
Et après, justement...
Le personnage de Gene Hackman dans Conversation secrète, d'ailleurs, avait tout du hacker. C'est intéressant à remarquer aussi par rapport à ces histoires d'écoute.
On a un peu aussi l'image du contrebandier moderne, finalement, du hacker. Mmh. C'est un peu le Al Capone, celui qui prend du bon temps, qui est là pour.
Je sais pas si Al Capone peut être considéré comme un hacker, là tu vas loin.
Non. Ouais, non, mais je veux dire, c'est le côté contrebandier, un petit peu. Ils font ça aussi pour le fric et tout ça. C'est des stéréotypes que l'on voit aussi au cinéma ou dans la fiction en général.
Oui, la plupart du temps, oui. Mais encore une fois, il y a vraiment très peu d'exemples du hacker au cinéma. Donc c'est pour ça que j'avais convoqué les ancêtres des années 80 pour essayer de dresser un portrait plus historique du truc. Quoi, mais...
Alors, comme tu tiens un multiplex de cinéma art et essai, est-ce qu'on le trouve maintenant exploité dans d'autres...
Je veux bien dire multisalle, si tu veux, mais...
Est-ce que le personnage du hacker maintenant, puisque tu vas tous les ans à Cannes, tu fais tous les ans le marché du film, est-ce que maintenant c'est une thématique qui sort justement un petit peu de l'Occident ?
Oui. Après, le cinéma tourne autour de cette thématique depuis un certain temps, sans jamais vraiment arriver à en faire quelque chose. Hein. Le dernier exemple en date, c'était le film de... Pardon.
C'est pas grave.
Hacker, le film qui s'appelait Hacker aussi. J'ai un trou, aidez-moi.
Ah, tu me demandes à moi.
Oui.
On est mal barré.
Bref.
Et d'un autre côté, c'est vrai que le hacker, c'est un personnage central de la littérature cyberpunk. Puisque c'est celui qui fait le lien entre le monde physique et le monde virtuel, là où il y a une possibilité de battre ceux qui ont plus de moyens que soi. Pourtant, Blade Runner a notoirement inspiré William Gibson, mais c'est une mauvaise adaptation d'un mauvais roman.
C'est pas vraiment un film de hacking, Blade Runner.
Blade Runner, non, mais...
Matrix l'était, oui.
Mais les romans de William Gibson, qui est le prêtre de ce côté-là, ont été extrêmement mal adaptés. Johnny Mnemonic, New Rose Hotel. Ouais. Est-ce que néanmoins, justement, il y a un début de changement ? Est-ce qu'il y a des distributeurs qui disent on va enfin s'approprier correctement cette littérature-là ?
Ça aurait pu être le cinéma, mais ça arrive par la série télé. Il y a également Halt and Catch Fire qui traite vraiment bien du sujet. Qui est une série sur les débuts de l'informatique domestique, pas dans la Silicon Valley, mais sur la côte Est plutôt. Et donc les prémices de ce que sera. C'est donc avant 84 en fait, avant le Mac, avant le logiciel libre, c'est les années juste avant, les débuts du PC. Donc c'est un peu le Mad Men du début de l'informatique.
Ouais. D'accord. Ouais.
dans la forme et les ambitions quoi, de série.
Donc on a parlé des mauvaises adaptations, c'est vrai qu'il y a quand même des fois on peut parler de nanar des fois, hein, ou limite série B. Est-ce que finalement ça a donné un côté cheap
cheap
pas mal à l'informaticien ou hacker ou au contraire on a des gros artifices côté romance et tout le reste
côté cheap je pensais dans les personnages de hacker récents il y a Q dans les James Bond
donc il est allé le voir.
C'est quand même à noter que c'est le prototype du teen hacker qui a remplacé la vieille barbe grise qui faisait des montres à stylo dans les années 70. Quoi.
Oui, comme il dit, le matin je me lève en pyjama, je peux faire plus de dégâts que vous.
Voilà. Ça, c'est peut-être le personnage de hacker le plus réussi des dernières années dans le cinéma, je trouve. Mais bon, il est un peu fugitif. Mais cheap, non, je vois pas. Je vois pas.
Dans le cinéma, donc c'est vrai qu'on a parlé tout à l'heure du mouvement Anonymous qui était plus ou moins abordé, pas trop mal.
Tu penses à V pour Vendetta, donc.
Oh putain, on parle pas de cette adaptation mal faite.
Oui, mais bon, c'est d'après.
Bah vas-y, bah, allez.
C'est quand même le film qui a donné aux Anonymous son masque, donc. C'est quand même important de le remarquer. Mais évidemment, c'est adapté d'une bande dessinée bien meilleure que vous connaissez aussi.
Mais d'ailleurs, c'est amusant comment ça se nourrit de ce côté-là.
Mais c'est quand même les Wachowski qui l'ont fait. Donc,
il y a une culture visuelle.
Wachowski,
c'est Matrix, oui.
Qui ont une culture du hacking assez intéressante quand même. Enfin, on peut penser ce qu'on veut de leur film. Il y a effectivement Matrix. Et puis, par la suite, celui sur les jeux vidéo, là, sur les courses de voitures, là.
Speed
Racer, voilà.
Speed Racer, ouais.
Bon, qui est une grosse daube acidulée, mais qui visuellement est assez novatrice. Il y a des choses intéressantes dedans. Ils ont essayé de hacker les effets spéciaux, le côté, le côté jeu vidéo, l'adapter au cinéma, fondre un peu les deux, quoi. Donc, ils ont une culture.
Chris a parlé tout à l'heure de War Games. C'est un film où là aussi, quand même, on a des éléments quand même qui sont assez concrets de l'informatique qui sont montrés, notamment il est question de scanner d'accès quand ils scannent tous les numéros de téléphone d'un quartier pour trouver une boîte de jeux vidéo pour tomber sur un serveur qui est en fait une démonstration d'attaque en brute force.
Et puis on arrive aux sources un peu du hacking où c'était par exemple téléphoner gratuitement, les premiers hackers cherchaient des choses comme ça aussi. Donc ça rapproche.
On envoyait un signal à 2600 Hz, si je me souviens bien, dans le téléphone.
Je sais plus.
C'est quelque chose en fait. Est-ce que toi justement, par la suite, tu t'y es retrouvé par rapport à quand tu as commencé à bricoler un peu? À désosser tes projecteurs, réassembler en C++, trucs comme ça.
Je ne voudrais pas tuer le mythe. Mais
quel mythe?
Non, je n'ai jamais désassemblé un projecteur 35 mm, ça prend trop de temps. Et ça ne sert plus à rien de toute façon, donc non. Quant aux projecteurs numériques, ce sont des serveurs avec... une grosse puce électronique à travers laquelle on passe beaucoup de lumière. Et voilà, mais bon, mais désosser ça serait rompre les garanties. Donc on ne sait pas. Et comme ça coûte très cher, on ne s'est pas aventuré à le faire. Par contre, on a financé une thèse sur le cinéma numérique pour pouvoir.
Ça, j'allais y venir. C'était après la pause musicale le truc où tu devenais sérieux.
Je croyais que tu me tendais une perche. Alors.
Non, mais le truc où tu deviens sérieux en fait pendant les trois dernières minutes. Mais bon, ça c'est.
Don't dare do people.
Bah moi, cette musique en 95, ça me faisait penser à une chaîne musicale, mais. Ouais, c'était le jingle des pubs sur MCM. Voodoo People, The Prodigy. Extrait de Music for the Ginter Generation. Non mais remets ton casque là. Donc autant parler effectivement donc un cinéma d'art et essai, mais comme nous, tu expérimentes pas mal, donc on va parler justement sur les projecteurs. Les projecteurs de cinéma, c'est quelque chose qui est bourré de DRM, c'est-à-dire qu'un film, quand vous le recevez, c'est pas quelque chose qu'on peut le passer dans...
C'est avec une clé asymétrique, comme le PGP en fait. Hein. Mm-hmm. Sauf que c'est sur des fichiers de 150 gigas. Et que c'est crypté pour par salle, par séance, par enfin bon c'est un bousin assez usine à gaz en fait.
C'est-à-dire avant il suffisait de recevoir fallait se les trembler les bobines 35 mm maintenant c'est verrouillé, c'est fini, faudrait transporter le projecteur pour l'envoyer dans une autre salle quoi limite.
non en fait ils se sont rendus compte que les clés asymétriques par salle c'était quand même une bêtise dans les multisalles. Donc actuellement, ils envoient des clés pour tous les écrans.
Donc, ce qui est encore mieux.
Ce qui est du hacking en fait de la norme qu'ils avaient eux-mêmes créée quelque part. Mais bon, c'est
quand même fort. Ils font l'inverse de Canal+. Ils reviennent en arrière. Quoi que Canal+ aussi maintenant, ils remettent l'ancien cryptage.
Peut-être qu'il vaut mieux pas parler de Canal+. C'est...
ouais, ça me ferait mal. Ouais. Donc, justement, il y a un format vidéo spécifique
qui s'appelle le DCP Digital Cinema Package, qui est en fait alors, on pourrait le comparer au MKV, c'est un peu à base de XML.
Et donc, alors, MKV, Matroshka, vous n'êtes pas avancé. Et XML, langage de balisage, vous êtes guère mieux avancé.
Voilà. Et je ne sais pas, comme tu m'as dit que ça pouvait être technique,
oui,
je n'avais pas peur de balancer des termes.
On peut y
comme
aller,
ça.
Non, mais t'inquiète, justement.
Et donc, à base de XML, en fait, ce sont des conteneurs qui contiennent du JPEG 2000, qui est un codec vidéo qui est très lourd en lecture et qui demande des machines assez puissantes et du décodage matériel en général. Tout l'objet...
C'est le JPEG 2000, donc c'est de l'image fixe.
Alors, on fait de l'image par image. On n'est pas sur de l'encodage progressif comme les fichiers vidéo qu'on voit sur nos télés, en fait.
Ouais, et quand il y a un néon à côté, on a des grosses traînées violettes. Ça, on ne peut pas l'avoir, donc si le fichier est endommagé.
Le 35 mm, c'était 24 images par seconde, avec 50 obturations par seconde même. Mais il y avait 24 photogrammes par seconde. Ils ont essayé de reproduire ça dans le cinéma numérique pour garder la même fluidité de mouvement par rapport à l'encodage progressif. Et donc on a des fichiers très très lourds, parce que le JPEG 2000 c'est très lourd. Le master à partir duquel ils font l'encodage, c'est même pas du JPEG 2000, c'est du TIFF, image par image, donc on est sur des fichiers qui dépassent les 1 Tera, en fait, pour un film. Donc mais ça, ils pouvaient pas l'envoyer dans les cinémas, donc ils ont fait du JPEG 2000 pour la compression. Mais ça, on est quand même au final autour de 150 gigas pour un film. Donc voilà, c'est pour schématiser. Donc ça pose des problèmes de décompression et de lourdeur du matériel. Donc l'objet de la thèse qu'on a financée ces dernières années, qui est arrivée à son terme le mois dernier, avait deux parties. La première partie était de créer une alternative pour la projection qui ne nécessite pas un matériel très coûteux. Et on a choisi comme base de lecteur le logiciel que tout le monde connaît qui s'appelle Videolan ou VLC et pour lequel Nicolas Bertrand, qui est donc le docteur actuellement, a développé un module qui permet de décoder les films, les copies cinéma à travers VLC, y compris les copies cryptées. Donc ce n'est pas encore dans la version publique, ça le sera théoriquement dans 6 mois. Mais dans 6 mois, potentiellement, 150 millions de gens pourront lire des copies cinéma. Quoi.
Donc, et l'idée aussi, c'est un peu d'alléger en fait la charge pour les chaînes de cinéma, d'avoir du matériel qui soit un peu moins fermé.
Ben, le but du jeu, c'est pas tellement pour la France, en fin de compte, parce que la France est très très réglementée et on a un tissu de salles qui est assez important dans l'Hexagone. Donc, on n'a pas tellement de nécessité à revitaliser les salles de quartier dans ce pays. Par contre, il y a beaucoup de pays comme l'Angleterre actuellement où se redéveloppent les cinémas communautaires, un peu quelque part les dérivés des ciné-clubs d'antan, mais avec des moyens assez frustres. Hein, c'est des lecteurs Blu-ray, des choses comme ça qu'ils font. Donc on peut imaginer un renouveau des salles de quartier, mais avec une qualité cinéma grâce à ce qu'on a aidé à développer. Quoi. Voilà, c'était un peu l'ambition. Et l'autre partie de la thèse, c'était aussi de faire du transfert dématérialisé de ces films qui pèsent 150 gigas, donc c'est assez lourd par le net. Donc on a créé quelque chose qu'on a d'abord appelé The DCP Bay, pour rigoler, c'était à base de peer-to-peer, pour envoyer les copies de films, genre les copies de Star Wars et tout ça, dans les salles de cinéma. Mais bizarrement, les partenaires avec qui on travaillait à Paris n'étaient pas très chauds pour aller voir Disney pour leur demander de passer ça par The DCP Bay. donc ils ont voulu prendre un autre nom, The DCP Bay étant le nom caché du projet maintenant. Mais actuellement, ça s'appelle NDCP. Bon, bref, c'est un jeu de mots un peu con, mais voilà, ils ont préféré ça. Okay. C'est vraiment la petite histoire, là.
On va bientôt rendre l'antenne. Ouais. Donc, juste une chose, les prochaines dates phares des cinémas Utopia à Toulouse et à Tournefeuille concernant, en fait, ceux qui sont proches, justement, de la culture du numérique.
Alors, la prochaine, c'est, on est assez content de pouvoir proposer un film qui n'est pas sorti en France, qui s'appelle The King of Kong, qui est un peu le When We Were Kings du rétro gaming, où il y a un combat au sommet, un duel au sommet entre deux spécialistes de Donkey Kong sur les bandes d'arcade. Et ça passera le 14 février à Utopia Toulouse. Ça, c'est la prochaine date. Et sinon,
c'est énorme.
On est assez contents.
À ce qui paraît, c'est vraiment énorme.
C'est très, très bon. C'est vraiment un très bon documentaire qui a vraiment des allures de fiction et qui est vraiment très, très chouette. Et l'autre date, ce sera sur la réalité virtuelle dans le cadre de la Semaine du Cerveau. Donc, il y aura des développeurs de jeux, tout ça. Et le film qu'on va passer s'appelle The Congress, qui était sorti il y a 2-3 ans. Je crois un peu, voire un peu plus, je ne sais plus, de Harry Folman, qui est passé complètement inaperçu parce qu'il était sorti en juin, personne ne l'a vu, je pense. Vous ne l'avez pas vu d'ailleurs ?
Non.
Voilà, ça tombe bien. Donc, qui est un film très intéressant sur la.
Il y en a un qui l'a vu. Ouais, bon, d'accord, ok.
Et donc, qui sur la réalité virtuelle et pas trop technique, mais qui dit des choses vraiment intéressantes sur ce que ça pourra amener dans le futur. Voilà, donc voilà, et que ça servira de base à la discussion après avec des spécialistes à la fois du cerveau et des développeurs de jeux en réalité virtuelle. Voilà.
Merci beaucoup, Rodolphe Village. C'était CPU, le programme Carré Petit Utile. Pour cette release, l'équipe était composée de Myriam Chave, Chef Cracking Officer, Chris O'Brien, Chef Cracking Officer, et Da Screech, Chef Spreading Officer. La release a été shippée avec les moyens techniques d'Estincelle, Coworking et de Radio FMR, et merci beaucoup au public présent. Non, arrêtez d'hurler, ça sert à rien, je coupe mon micro. L'intégralité du programme et les extraits et ses sources sont disponibles sur le site cpu.pm. Vous pouvez commenter et partager, et en plus la licence est libre, donc n'hésitez absolument pas. Prochaine release, Lost and Found, volume 2. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à 11h. Si vous nous écoutez sur Radio FMR Analogique, il est presque midi. Nous cédons à Monique Blanquet le moment de son impromptu.